FM.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio G au 101.5 FM. Vous écoutez bien l'Étudiant Time, une émission faite par des jeunes sur tout ce qui intéresse les jeunes, mais pas que. Nous sommes avec vous pour une demi-heure ce 4 novembre. Vous pouvez aussi retrouver notre émission en podcast sur www.radio-g.fr. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Sarah Biche, la présidente de la FEDESA.
Bonjour.
Ensuite, Rim va vous parler de comment améliorer son intuition.
Bonjour Sarah, du coup on va commencer par ton interview si tu le veux bien. Je crois que c'est pas la première fois que tu fais une interview à la radio toi, c'est ça?
Non.
Parfait, on a une habituée. Donc merci de venir dans l'étudiant Time. T'es étudiante en quatrième année de pharmacie à l'université d'Angers si je me trompe pas, et tu me corrigeras juste après. Et surtout tu es la présidente de la FEDESA. Déjà, est-ce que j'ai bon pour l'instant?
C'est ça, je suis en césure. Dans ma quatrième année de pharmacie.
Ça tombe bien, Shaima nous avait parlé de la césure justement à l'émission précédente. Et donc, c'est quoi la FEDESA en deux, trois mots?
La FEDESA, c'est la Fédération étudiante des associations de l'Anjou. C'est la première organisation représentative étudiante de Maine-et-Loire. Et on a pour vocation, en fait, de représenter les étudiants et les étudiantes de l'Anjou, mais aussi d'animer la vie des campus, d'accompagner les associations et encore bien d'autres.
D'accord, ouais, donc quand même une association qui est un petit peu ancienne. Ça a été fondé en 2003. Avec environ 45 000 étudiants sur Angers-Moulin Métropole, vous devez avoir beaucoup de travail. Mais toi d'ailleurs, ton travail, qu'est-ce que c'est en tant que présidente?
Alors c'est un petit peu de coordonner tout ce qui se passe à la FEDESA et d'avoir un petit peu un œil sur tout, sur les différents pôles notamment, donc tout ce qui va être la défense des droits, parce qu'on a une mailing où les étudiants et étudiantes peuvent nous écrire s'ils ont des problématiques, que ça aille du logement, des bourses, aux discriminations, aux violences sexistes, aux modalités de contrôle de connaissances. Voilà, ça prend un petit peu tous les sujets, tout ce qui se passe aussi niveau prévention, chapeauter un petit peu ce qui se passe au niveau de la culture, puisqu'on a quand même pas mal d'événements culturels, le festival Premier Plan, la nuit du cinéma, le jury étudiant du Tréma, et coordonner toute l'équipe qui compose le bureau de la FEDESA, donc voilà, la trésorerie, le secrétariat, les affaires académiques, affaires sociales, et puis tout simplement présider les conseils d'administration, les assemblées générales qui régissent un petit peu toute la structure.
Ah oui, donc c'est quand même une association très démocratique, et bien surtout il doit y avoir pas mal de membres. Vous êtes 8 membres du bureau, donc simplement à diriger l'association, et 9 associations adhérentes, si je ne me trompe pas. Et tu l'as dit, les valeurs de la FEDESA, vos objectifs, etc. Mais ils sont aussi lisibles sur votre site internet fedesa.fr. Et donc vous travaillez à promouvoir la solidarité, la culture, la représentation des étudiants, etc. Et justement, en termes de solidarité, on sait que les étudiants sont une population très fragile. En plus, ils sont de plus en plus nombreux à Angers. Est-ce que vous avez pu repérer certaines difficultés qu'ils ont eues cette année?
Ouais, là, on a des gros dispositifs de solidarité parce que, en effet, mais déjà depuis plusieurs années, mais ça a été mis en exergue par la crise sanitaire, les étudiants et étudiantes sont de plus en plus précaires et sont soumis à Angers particulièrement à des problématiques, notamment de logement, voilà, qui ont, je pense, échappé à personne en cette rentrée universitaire. Mais on a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, notamment des publics extra-communautaires, qui se retrouvent sans solution d'hébergement pérenne à la rentrée. Et du coup, qui ne peuvent pas commencer leurs études dans de bonnes conditions de vie, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on a un dispositif qui s'appelle Un lit pour la nuit, qui est un dispositif d'hébergement temporaire d'urgence, où on met en relation justement des hébergeurs et hébergeuses avec des étudiants qui en ont besoin. Voilà, qui est ouvert de fin août à fin octobre. Et cette problématique de précarité, donc certes, elle se voit sur le logement, mais elle se voit aussi sur l'alimentation, en fait, sur tous les pans de la vie étudiante. Et c'est pour ça qu'on a ouvert il y a un mois l'Agorae, qui est une épicerie sociale.
Ah, c'est parfait, mais tu anticipes toutes mes questions, c'est merveilleux. Ben oui, justement, donc tu nous parlais d'abord du dispositif Un lit pour la nuit. Rim, je crois que c'est toi qui voulais lui poser des questions là-dessus.
Oui, pour un lit pour la nuit, c'est aussi un de vos projets, mais est-ce que tu peux nous en parler plus en détail?
Ouais, Un lit pour la nuit, en fait, c'est un dispositif qui est né l'année dernière et qui est calqué en fait sur un dispositif qui existe à Strasbourg et aussi dans d'autres villes du réseau de la FAGE. Donc, et donc de l'hébergement temporaire chez l'habitant d'urgence, voilà, ça n'a pas du tout vocation à durer toute l'année. C'est un dispositif qu'on ouvre du 25 août au 31 octobre à peu près. En fait, sur le site internet, on a des formulaires, être hébergé et hébergé, qui permettent soit à des habitants, des retraités, des familles, d'autres étudiants qui ont une chambre de libre ou un canapé de libre, de s'inscrire pour héberger un ou une étudiante, soit juste une nuit de temps en temps, soit sur une plus grande durée sur le dispositif, voilà, avec plein de spécificités. Et la même chose pour que des étudiants et étudiantes s'inscrivent, en nous donnant les dates où ils ont besoin d'un hébergement. Et en fait, la FEDESA s'occupe de faire le traitement des données entre les deux, de mettre en relation les personnes concernées et de faire un petit suivi un petit peu après de comment ça se passe. Donc voilà, on a donc renouvelé l'expérience cette année parce que malheureusement, la situation ne s'est pas du tout améliorée depuis l'année dernière.
Oui, parce que donc ça a été ouvert l'année dernière.
C'est ça, c'était la première fois qu'on le faisait à Angers l'année dernière.
D'accord.
Et combien de demandes de logement d'urgence vous avez eu l'année précédente ?
Alors l'année dernière, on a été jusqu'à 350 demandes d'urgence. Après, ça ne veut pas dire qu'elles ont toutes abouti à vraiment une situation d'urgence, puisque les étudiants ont aussi multiplié les portes d'accès vers les logements. Donc il y a des demandes qui n'aboutissaient pas, ou des étudiants qui avaient trouvé entre-temps. Et cette année, on en a eu 170 parce qu'on a été obligé de fermer le dispositif parce qu'on avait trop de demandes justement.
C'est ça, parce que vous avez ouvert le dispositif du 26-28 août, je crois, et vous l'avez fermé début septembre, c'est ça ?
Ouais, en fait, on l'a fermé aux nouvelles demandes, on l'a pas fermé à proprement parler, parce qu'on a continué à traiter toutes les demandes qui étaient déjà dedans, plus à traiter des demandes en interne qui passaient pas par les formulaires qu'on pouvait avoir directement par téléphone, sur les réseaux sociaux, par mail, sur d'autres adresses mail. Donc voilà, il y a eu quand même des demandes qui ont été traitées. On a aussi beaucoup relogé des étudiants qui étaient déjà dans le dispositif, qui n'ont pas trouvé de solution, qui arrivaient à la fin de leur hébergement temporaire chez quelqu'un, et qu'il a fallu reloger plusieurs fois comme ça. Donc voilà, il y a quand même du travail. Et le dispositif, en fait, même quand il ferme au 31 octobre, il ne ferme pas aux étudiants qui sont déjà dedans. On essaie de les aider le plus longtemps possible pour qu'ils trouvent une solution pérenne.
Vous avez aussi un autre projet pour aider les étudiants. Bon, déjà le logement, je pense que c'est génial. Les 170 personnes là cette année qui ont pu se tourner vers vous, vous en remercie, je pense, énormément. Vous avez aussi un projet qui s'appelle l'Agorae. Qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? Pourquoi est-ce que ça a été créé à Angers, etc., etc.
Ouais. L'Agorae, c'est une épicerie sociale et solidaire. C'est porté au niveau local par la FEDESA à Angers et au niveau national par la FAGE, qui est la Fédération des Associations Générales Étudiantes, et qui a en fait mis, avec d'autres fédérations de territoire, en place ce projet il y a 10 ans. Et actuellement, il y a 31 Agorae qui sont ouvertes en France. Donc voilà. À Angers, ça a ouvert le 20 septembre dernier. Et en fait, l'Agorae, c'est... une épicerie qui a pour but de lutter contre la précarité sur différents plans, sur le plan alimentaire avec la partie épicerie, qui propose des denrées de première nécessité, mais aussi de l'hygiène, de l'entretien, etc., à des prix entre moins 70 et moins 90% des prix du marché. Voilà, et c'est accessible aux étudiants et étudiantes sur critères sociaux. Donc il y a un dossier à remplir qui est disponible sur le site internet. Et dans ce dossier, en fait, on va demander les charges, les ressources, de petites infos sur... les études, les projets de la personne. Le but étant de faire du cas par cas, parce que chaque dossier est étudié en commission avec des membres de la FEDESA et des assistants, assistantes sociales du CROUS et de l'Université d'Angers. Et ça permet vraiment de... Certes, on a des seuils, mais ils ne sont pas fixes et on peut les adapter en fonction de la situation personnelle de chaque étudiant ou étudiante. Donc voilà. Ça, c'est la partie épicerie. Et il y a la partie lieu de vie, qui est vraiment indissociable du projet Agorae, qui est pour lutter contre l'isolement social et pour promouvoir l'accès aux droits. Et là, on va pouvoir y faire des ateliers sur plein de thématiques avec des intervenants. Ça peut aller de initiation à la langue des signes, à soirée de jeux de société, enfin, toutes les thématiques peuvent y passer. Et le but, c'est un petit peu d'être une porte d'entrée vers le droit des étudiants et qu'en fait, ils puissent se tourner vers nous s'ils savent pas où aller ou qu'ils ont besoin de ressources et qu'on puisse les rediriger vers les bonnes personnes, parce que c'est un projet par les jeunes et pour les jeunes, et que c'est beaucoup plus facile d'être redirigé par un autre étudiant vers un service social par exemple que de faire la démarche de prime abord tout seul.
D'accord, merci beaucoup. Shaima, tu voulais demander du coup comment est-ce que ça marchait, mais là ça va être un petit peu... C'est très bien, tu nous mâches le travail. J'aurais tout de même une ou deux questions en plus. Déjà, où est-ce que ça se trouve, qu'on puisse vous donner l'adresse et que les étudiants qui nous écoutent puissent s'y rendre?
Ouais, elle se trouve au 1 rue Pierre Gobert, dans une des tours, en fait, c'est le rez-de-chaussée d'une des tours.
C'est à Belle-Beille, c'est ça?
De quoi?
C'est à Belle-Beille, du coup.
Oui, c'est à Belle-Beille, c'est à l'angle entre Patton et Bossier. Voilà. Faire un petit peu le tour des bâtiments parce qu'on est encerclé par les travaux, mais...
Ah oui, non, les travaux en ce moment, compliqué pour tout le monde. Et c'est ouvert de quand à quand?
Pour l'instant, c'est ouvert pour la partie épicerie, tous les mardis et jeudis de 16h à 19h, Et les ateliers, c'est en dehors de ces heures-là. Et c'est au cas par cas sur nos réseaux sociaux. Du coup, il y a des pages Facebook et Instagram pour l'épicerie spécifiquement. On pourra retrouver toutes les infos.
D'accord, bah c'est super. Et du coup, tu dis que ça a l'air quand même d'être un gros travail. Vous êtes combien à travailler dessus? Il y a combien de salariés? C'est que des étudiants qui gèrent ça? Parce que tu dis que c'est pas des étudiants pour des étudiants, mais c'est quand même un gros boulot.
Alors, l'épicerie, elle est gérée par des étudiants. Donc, on va dire qu'on est 3-4 personnes de la FEDESA qui avons d'autres postes à côté qui interagissent sur l'épicerie. Et on a une volontaire en service civique depuis, du coup, 2 petites semaines, qui est là 24 heures par semaine avec nous. Pour aussi faire des missions dans l'épicerie. Donc voilà, mais on a la recherche de bénévoles. Faut pas hésiter, on a un petit formulaire devenir bénévole sur le site internet. Voilà.
D'accord, oui, parce que surtout que ça aide vraiment les étudiants qui peuvent venir faire leurs courses pour 10% du prix du marché. T'avais dit, non, c'est
ouais,
vraiment
c'est ça.
Utile.
Les prix sont cassés et il y a moyen aussi, voilà, on a des bénévoles dans l'assaut qui sont aussi des anciens bénéficiaires des distributions. Enfin, on peut très bien mixer les deux.
Et petite question un petit peu plus logistique et fonctionnalité derrière behind the scene, tout ça. Ça doit coûter quand même beaucoup d'argent. C'est vous, la FEDESA, qui réussit à mettre tous ses fonds là-dedans, ou vous avez des aides peut-être de la mairie, de l'État, de la FAGE justement?
Ouais, du coup, le projet, effectivement, ça coûte de l'argent parce qu'il faut un local, il faut l'aménager, il faut des frigos, des congèles, etc. Donc, on a des subventions publiques et privées. On a 2 subventions de la mairie. On a une subvention de la FAGE, effectivement, de l'argent aussi et l'accompagnement de l'ANDES, qui est l'Association nationale du développement des épiceries solidaires. On a aussi, bon, du coup, pour payer la volontaire en service civique, une aide de l'Agence nationale des services civiques, etc. Et on a eu, en termes général, aussi l'accompagnement de l'Université d'Angers et aussi du Secours populaire, d'ailleurs, quand on a fait notre transition entre distribution alimentaire et le modèle d'épicerie. Voilà.
D'accord, bah merci beaucoup.
Du coup, moi, je voulais te poser des questions sur la culture. En termes de culture, vous avez des projets aussi, du coup. On a pu voir votre stand avec la mascotte au Campus Day. Pour rappel, le Campus Day est la journée d'intégration des étudiants de l'Université d'Angers. Est-ce que vous avez d'autres projets culturels, du coup, en vue à venir?
Ouais, alors, on a 3 projets culturels qui sont à peu près les mêmes chaque année, qui reviennent toujours, qui c'est le Festival de cinéma Premier Plan, où fait le jury étudiant. La Nuit du cinéma, qui se déroule d'habitude aux 400 coups, et le Tréma étudiant, qui a du coup un tremplin musical pour les jeunes qui composent et interprètent leur propre musique. Et là, du coup, pareil, on fait le jury étudiant. Et au-delà de ces 3 projets qui reviennent, on essaye de participer à la vie culturelle des étudiants et des étudiantes avec un radar culture qui se passe sur Instagram, qui n'a pas encore repris cette année, mais ça devrait arriver, où le but, c'était de faire une espèce de petite newsletter toutes les semaines sur les sorties culturelles de la semaine pour les étudiants, voilà, qui n'étaient pas trop chères. Et on accompagne aussi de temps en temps des projets étudiants d'école, en fait. On peut avoir des étudiants, notamment des masters culturels, soit de l'ESTUA, soit de l'UCO, qui nous contactent pour avoir un peu le soutien d'une asso sur des projets qui doivent monter dans le cadre des cours. Et ça, c'est des trucs qui sont possibles aussi.
Ok, c'est super intéressant, surtout si vous pouvez aider les étudiants eux-mêmes à faire leurs projets, ça peut être intéressant. Et est-ce que pour les 50 ans de l'Université d'Angers, vous avez participé à des événements?
Je sais plus.
Ah, c'est une question piège, hein, parce qu'il y a 50 événements qui sont prévus pour les 50 ans de l'Université d'Angers.
On n'a pas déposé de projet à proprement de la FEDESA pour les 50 ans, parce que la rentrée était déjà bien chargée.
Voilà. Avec votre ouverture de la Gorée, oui, effectivement.
Ouais. J'ai vu passer le guide des étudiants sur Facebook aussi, et du coup, qu'est-ce que c'est?
Le guide des étudiants, c'est, on va dire, l'amélioration du guide des aides sociales qu'on publiait avant, et c'est un guide qui fait 100 pages et qui regroupe un petit peu toutes les infos pratiques pour la vie étudiante sur Angers, Cholet et Saumur, avec plein de catégories, culture, sport, transport, mais aussi santé, les permanences de vaccination, tous les numéros de téléphone des Cégides, des plannings familiales, etc. Les explications des bourses aussi, de comment faire son dossier social étudiant, les aides à la mobilité, master international, etc. Voilà, un peu tout ce qui peut être utile. Le but, c'est de se dire qu'il peut y avoir un guide qui regroupe un petit peu toutes les infos importantes pour un étudiant. Et après, on peut le consulter. Donc là, c'est celui de l'année dernière qui est sur le site internet, mais le nouveau va arriver très bientôt. Et voilà, ils sont triés. On peut aller directement aux catégories qu'on veut. Et puis, normalement, ça donne à peu près toutes les ressources pour trouver les bonnes infos après.
Donc on a vu que la FEDESA s'implique énormément à beaucoup de projets. Toi, j'imagine qu'en tant que présidente, du coup, tu dois avoir beaucoup de travail. Et tout ce travail de cet engagement, surtout bénévole, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu recommanderais ça aux étudiants, une implication étudiante, voire même, pourquoi pas, une implication à la FEDESA?
Oui, complètement. Non, vraiment... Bon, moi, c'est la meilleure expérience que j'ai faite jusqu'à maintenant. Et enfin, je ne suis pas arrivée directement comme ça à la présidence de la FEDESA. Hein. J'ai d'abord été élue à l'Université d'Angers. Puis après, je me chargeais de la santé et de la défense des droits à la FEDESA. Et du coup, cette année, c'est la présidence. Mais ouais, ça diversifie énormément genre, les compétences, les visions des choses, etc. D'être engagée dans l'associatif. Et vraiment, moi, j'ai découvert plein de choses. Je n'aurais jamais pensé écrire des dossiers de presse, faire des enquêtes, faire de la trésorerie, enfin voilà. Et puis on rencontre des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés dans nos études de base, parce que des filières qu'on ne croise pas, on n'est pas sur les mêmes campus, enfin voilà, il n'y avait pas trop de raisons de se croiser. Là vraiment ça ouvre les perspectives, ça donne accès à plein de formations pour se déconstruire sur plein de choses. Donc c'est vraiment super enrichissant et je pense que quel que soit le chemin qu'on fait après, c'est forcément valorisable et valorisant pour la suite.
D'accord, bah parfait. Est-ce que tu as un mot pour conclure cette interview? D'ailleurs, merci beaucoup pour cette interview.
Oui, si vous voulez venir à la FEDESA, on recrute et même on a sur tous les postes, hein, responsabilité, pas responsabilité, développement durable, événementiel, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à nous envoyer un petit DM sur les réseaux sociaux, voilà, Facebook, Insta, Twitter, normalement on est partout. Pas encore sur TikTok, mais voilà. Et on sera ravis d'en discuter.
Merci beaucoup Sarah Biche pour cette interview à Radio G. On va faire une petite pause musicale. Est-ce que tu as une recommandation?
Ouais, il y a une chanson que j'adore qui est en français qui s'appelle Bonhomme de Mrs. Yeye. Vous allez voir, c'est trop bien.
Tu te vois comme un lion, rugis dans la savane. Mais dès que savane t'es moins proche du fauve ou du chaton, ton cœur de pierre ne laisse jamais couler une larme. Comme si personne n'avait jamais vu pleurer les montagnes. Ta voix est lourde, tes mots sont pas très lourds de sens. Parle fort, tu n'es pas fort intéressant. Une photo de ta bite, tu crois que tu m'excites. Exit des techniques de type exhibitionniste. Ça commence à se voir. Tu méprises les trucs de filles. Tu te moques des mecs qui portent des robes et se maquillent. Jamais de polo rose, ni pantalon serré. Tu tapes pas la bise à tes potes car ça fait péder. Vois le monde avancer, suive par tous les ports. Et comme tous les ports, tu vas te faire balancer. Me dis pas que tu boudes, mais désolé gamin. Tes idées arrivent au bout de leur bonhomme de chemin. Ça commence à se voir.
Quand je dis que je suis bien membré, les abdos c'est du béton, les bras c'est des catapultes. Les autres garçons c'est des cons, et moi je suis bien aigué. Dis-moi merci quand je te cours, puis dans la rue ça bute.
Ça commence à se voir. Tu n'es qu'un sale môme. Sortez les mouchoirs, petite bête de Bénine. Arrête de faire ton
tourneau.
Vous êtes toujours toujours sur Radio G au 101.5 FM. À présent, vous allez pouvoir écouter la chronique de Rim sur comment améliorer son intuition.
Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intuition, appelée aussi le sixième sens. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander, chez Emma et Robin, est-ce que vous croyez à l'intuition ou à votre intuition ?
Personnellement, oui, je crois à l'intuition, parce que des fois on sent des choses sur des personnes ou sur des événements, et je pense que oui, c'est réel.
Moi, c'est pas forcément l'intuition, je crois beaucoup en ma chance. Après, sur l'intuition, c'est plus des ressentis que vraiment l'intuition, je dirais.
Ok, donc de toute façon, c'est l'intuition, c'est des ressentis et des impressions. On verra ça après, mais merci pour vos réponses. En fait, tout d'abord, pour commencer sur de bonnes bases, il faudra qu'on définisse ce que c'est l'intuition. En fait, l'intuition, c'est cette petite voix intérieure qui vous accompagne et vous alerte en cas de danger. C'est en quelque sorte votre GPS interne, comme l'a bien décrite Anne-Laure Théris dans son livre « Coaching de vie, manuel de bord pour coach et coacher ». L'intuition n'est donc pas de la magie, ni un don. L'intuition est tout simplement une intelligence qui n'est pas reliée à la pensée mentale, mais plutôt à notre instinct. Notre intuition peut s'exprimer de différentes manières. Elle peut être sous forme de pensée, d'impression, de sensation corporelle ou même d'émotion. Il est donc important de savoir que, quitte à ce que l'intuition soit une faculté innée, celle-ci pourrait toujours se travailler, s'exercer et surtout s'améliorer au quotidien. Mais pourquoi dois-je travailler mon intuition ? En fait, l'intuition, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, c'est une sorte de guide qui aidera la personne ou qui nous aidera à détecter lorsque quelque chose qui cloche se passe ou lorsque quelque chose cloche dans une relation, par exemple. Il s'agit par exemple d'une sensation que l'autre est en train de nous mentir ou que la demande qu'on nous présente n'en est vraiment pas une, etc. Et justement, quand ce genre de sentiments nous viennent, il est important de ne pas les chasser et de les garder dans un coin de notre tête pour vérifier après s'ils étaient justes ou non. Parce que oui, notre intuition peut se tromper, mais ceci n'est pas dû au fait qu'elle est une source d'information non fiable, mais c'est parce que nous avons besoin de nous entraîner à utiliser notre intuition correctement, afin que celle-ci soit capable au maximum d'être fiable et de nous donner de bonnes informations. C'est pourquoi je vous proposerai aujourd'hui quelques astuces pour améliorer votre intuition afin de pouvoir lui faire confiance par la suite. Tout d'abord, il faut savoir que la capacité intuitive repose principalement sur les sens, qui à leur tour définissent nos émotions. D'où la nécessité de s'entraîner à écouter son corps et à comprendre ses émotions. Un deuxième point important, en fait, l'émotion est toujours juste. Et quand celle-ci se trompe, c'est parce qu'il ne s'agit pas réellement d'une émotion ou plutôt d'une intuition, mais c'est comme l'a dit la sémiologue Elodie Miltsarek, c'est plutôt l'expression d'un désir, de l'imagination, d'une volonté ou d'une peur. Pour mieux comprendre, on prendra un exemple où on pourrait confondre notre intuition et notre peur. Prenons le cas d'un étudiant à qui son prof donne un feedback sur son travail rendu. Si son prof, par exemple, lui donne une remarque ou une critique négative, mais constructive bien sûr sur son travail, alors que cet étudiant n'a pas du tout confiance en lui ni en ses compétences, il pourrait, par exemple, prendre ses remarques négatives, les prendre mal, et se dire que peut-être le prof ne l'aime pas, peut-être le prof n'est pas du tout satisfait de ce qu'il a rendu, peut-être ses collègues ou son prof pensent qu'il n'est pas suffisamment compétent, etc. Alors que finalement, ça pourrait ne pas du tout être vrai. Dans ce cas-là, on n'est pas en présence d'une intuition, mais plutôt d'une mauvaise interprétation de l'étudiant, qui est liée surtout à son manque de confiance en lui-même et sa peur d'échec, qui lui fait entendre justement des choses qui n'étaient pas dites. Il lui fait entendre ce qu'il avait justement peur d'entendre. Et ce deuxième point nous emmène à aborder la troisième idée, qui est les principaux obstacles de l'intuition. Il s'agit des points suivants. Le manque de confiance en soi, l'hyperrationalisme et la négativité. C'est pourquoi, par exemple, une personne toxique, surtout le profil de la victime, aura toujours tendance à mal interpréter votre discours. Par exemple, une remarque négative va la prendre pour une insulte. Un encouragement à un compliment sera du sarcasme pour lui. Et n'hésitez pas à revenir à l'épisode 2 où on a détaillé les profils toxiques si jamais cela vous intéresse. Et c'est toujours en podcast sur radio-g.fr. Et donc, pour conclure, il faut savoir que si vous arrivez à vous libérer de ces obstacles, ainsi que de distinguer votre intuition de vos pensées déjà construites, qu'on a évoquées évidemment au deuxième point, telles que la peur, la volonté et l'imagination, vous pourrez accueillir vos intuitions et choisir de leur faire confiance en toute sécurité. Donc voilà, j'espère que ces petites astuces vous seront utiles pour apprendre à mieux exploiter votre intuition, car soyez sûr, celle-ci vous aidera vraiment à gagner du temps et pourrait même vous éviter parfois de commettre des erreurs.
Merci beaucoup Rim, on arrive à la fin de notre émission, merci beaucoup les filles.
De rien.
Merci.
Merci d'avoir écouté l'étudiant Time, on se laisse avec une musique de Master Soulboy, Dreaming.
Kids are gonna love it.